Je vous ai adressé au bon soin de Oni, notre secrétaire, une invitation pour un moment particulier ce soir, ici, à 17h. L'ouverture d'un parcours appelé Lectio Divina. Alors, les protestants que vous êtes, tout de suite, quand ils entendent du latin, je sais l'effet que ça leur fait. Hein. Ils ont envie de partir en courant. Mais attendez, laissez-moi une chance. Lecture de Dieu, si vous préférez, dans le texte biblique, ou aussi lecture avec Dieu de l'appel qu'il nous adresse dans les Écritures. Et ce parcours n'a pas d'autre intention que de remettre la parole biblique au centre de nos vies personnelles et communautaires. Et il s'adresse à tous, aussi bien à ceux qui ont l'habitude que ceux qui ont perdu l'habitude de lire, ou qui n'ont jamais eu vraiment l'habitude de lire. Et puis ceux qui ont l'habitude, eh bien aussi c'est intéressant parce que le tout n'est pas de lire la Bible. La Bible n'est pas une potion magique qu'on s'envoie le matin avant de commencer la journée, et puis tel le soleil du psaume 19, héroïque, hein, dans son parcours, nous allons traverser nos épreuves avec succès. Le tout n'est pas de lire, mais d'entendre ce que nous disent les Écritures bibliques aujourd'hui. Entendre l'appel de Dieu dans les Écritures. Ça, c'est une expérience bouleversante, fondatrice, rare, beaucoup moins répandue que l'on croit. Dans nos bonnes églises évangéliques, j'entends souvent « Le Seigneur m'a dit ». Le Seigneur m'a dit, peut-être est-ce là le fait d'une incantation plus que d'une réalité. Entendre l'appel de Dieu dans le texte est un événement aux conséquences très lourdes. La parole nous déplace vers l'inconnu. Elle n'est pas donnée pour me conforter, me confirmer ou rassurer mes convictions. Elle n'est pas donnée nécessairement pour démolir, mais toujours, toujours pour interroger. Si nous ne prenons pas ce temps et ce risque de la fréquentation personnelle et communautaire de la Bible, nous allons dépendre des autres, des spécialistes, inquiétant ou rassurant, intello ou spirituel, psycho ou dogmatique, peu importe, mais nous serons des suiveurs de ceux qui savent. Or, la seule personne que nous sommes appelés à suivre au cours de notre vie, c'est le Christ, lui seul, personne d'autre. Et son appel, cet appel qui a résonné ce matin dans le psaume 19, et qui va, je l'espère, continuer à résonner pour chacun d'entre nous. Ce matin, dans le psaume 19, il nous a conduit d'une louange cosmique, universelle, vers la repentance personnelle, et puis de la repentance personnelle vers le pardon. Et puis du pardon, il nous a appelé à la joie intérieure, qui fait jaillir en nous l'expérience même du salut. Voilà comment nous avons fait ce matin des provisions bibliques. Il nous faut en faire d'autres, sans tarder, pour être rendus capables de faire la route avec le Christ jusqu'au bout. Et c'est ce que va nous inviter à faire maintenant la parabole des 10 jeunes filles dans l'évangile de Matthieu. Pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue sur l'importance de la fréquentation des Écritures. Mais nous allons nous lancer dans un exercice ce matin de méditation du texte Matthieu 25, les versets 1 à 13. En gros, qui nous disent qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire le plein. Il faut faire provision d'huile tant qu'il fait jour. tant qu'il est temps. Reste à comprendre ce que tout cela veut dire. Une bonne lecture de la Bible commence toujours par un questionnement honnête. Essayons de faire comme si nous entendions cette histoire pour la première fois. C'est pas facile, hein ? Parce que cette histoire nous est peut-être restée un peu en travers, et quelque part, hein, elle nous a dérangés. Et elle représente une difficulté pour quelques-uns, au moins. Et ce questionnement, c'est cela. Comment comprendre, en effet, cette histoire de 10 jeunes filles fiancées à un seul homme ? Vous n'êtes peut-être pas posé cette question ? Il y a d'autres questions. Comment comprendre que Jésus appelle sages ses fiancés qui refusent de partager leur huile ? Comment comprendre la terrible dureté du Seigneur qui ferme la porte au nez des cinq folles qui demandent pourtant à entrer ? Comment concilier ça avec le message de l'Évangile qui dit ailleurs et à de nombreuses reprises qu'on ouvrira à celui qui frappe. Alors, je vais commencer par le plus facile, hein. La réponse, pourquoi il y a 10 fiancés pour un seul mari. C'est pas... Il faut quand même entendre ça comme une comparaison, comme une... la charge symbolique est forte quand même. Et ce n'est bien évidemment pas pour Jésus... Là, ici, un enseignement sur les bienfaits de la polygamie. Non. La symbolique de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, Dieu ne fait plus alliance avec un seul peuple. Ni même avec le genre humain tout entier, mais avec des gens, des personnes, des individus. Ce qui intéresse Dieu ici et maintenant, c'est mon écoute et ma réponse à son appel. C'est peut-être cela qui se joue avec ces 10 personnes qui sont dans l'attente de Dieu. Ce qui n'est pas souvent relevé, mais qui est pourtant dit clairement, littéralement, c'est que ces 10 jeunes filles sont une image du royaume de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Il n'est pas dit que le royaume de Dieu est semblable à 5 vierges sages qui ont pensé à bien remplir leur fiole d'huile. Non, il est écrit qu'il est semblable à 10 qui ont pris toutes leurs lampes. Toutes se préparent. Toutes espèrent la venue de l'époux. Et toutes s'endorment au milieu de la nuit. Pas seulement les 5 folles. Alors où est le problème ? Le problème, c'est que Jésus attire notre attention sur quelque chose qui a au moins autant d'importance que la foi et que nos vies négligent souvent. Une chose dont il est urgent de faire provision quand on le peut encore. Et cette chose, nous dit Jésus, est d'une importance semblable à l'importance de l'huile dans une lampe à huile. Une importance vitale, capitale. Reste à savoir ce que cette huile représente. Dans la Bible, elle coule, cette huile, à diverses occasions, mais toujours, elle évoque la bénédiction de Dieu. Elle coule sur la barbe d'Aaron, comme la rosée. C'est la vie, hein. C'est la bénédiction de Dieu. L'huile coule sur la tête de son Messie pour qu'il apporte l'appel de Dieu à son peuple et le renouveau. L'huile, c'est la bénédiction. On peut dire que les 5 vierges prévoyantes font le plein de bénédictions pendant qu'il fait jour. Tant qu'il fait jour, il est facile de s'approvisionner en bénédiction. Voilà ce que dit Jésus. Il y en a 5 qui font provision d'huile et 5 qui se disent, qu'il sera toujours temps d'aviser le moment venu. Comme la cigale, hein, un peu dans la fable de La Fontaine. Ces cinq insensés vivent dans l'instant présent sans jamais penser au lendemain, à la suite, sans se projeter dans leur vie. Et le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas courir 40 km du marathon si l'on s'est préparé seulement pour 10. On s'arrêtera à 15. On ne peut pas apprécier la beauté de la poésie grecque, arabe ou russe sans avoir horriblement souffert pendant des années sur des exercices de grammaire. Ça ne marche pas comme ça. Et chacun peut maintenant inventer les exemples qui lui conviennent. Ces bénédictions ne s'obtiennent qu'en adaptant son comportement présent au but poursuivi. L'huile, ça représente une vie responsable, une vie conséquente. Être capable d'aimer, d'espérer, de pardonner, de se réjouir, de s'apaiser. Tout cela s'apprend au long du chemin d'une vie, pas à pas avec Dieu. Ça ne s'apprend pas une fois pour toutes, le jour de sa conversion. On reçoit tout et puis ensuite c'est réglé. Ce n'est pas parce que vous déciderez ce matin de croire en Dieu qu'une avalanche de bénédictions va vous tomber dessus. Il y a un parcours, un chemin à faire. C'est à cela que nous sommes appelés, par cette parabole. Elle développe une éthique de la responsabilité. Tant que la vie n'est pas trop dure, tant qu'on ne souffre de rien, ni de la faim, ni de la soif, ni de l'insécurité, qu'on ne subit pas de violence, tant qu'il fait jour, eh bien, c'est le moment de faire le plein de bénédictions. Très concrètement, on va s'exercer à des tas de choses, tant qu'il fait jour, comme la connaissance de Dieu par la lecture des Écritures. On va s'entraîner par l'entraide, par la rencontre des uns et des autres, pas seulement de ceux qui nous ressemblent. On va s'entraîner par le don de soi, tant qu'il fait jour. Oui, Dieu déverse des tonnes de bénédictions qu'il faut aller chercher. Il n'y a qu'à se servir. C'est l'abondance, la surabondance de la bénédiction. Maintenant, en deux clics de téléphone, vous téléchargez une Bible. Plusieurs versions, plusieurs traductions. Vous l'avez avec vous, partout où vous allez. Lisez la Bible, tant qu'il fait jour. Parce que demain, la nuit peut tomber. Il fait peut-être nuit maintenant sur certains cœurs des personnes qui sont rassemblées dans cette église. Et cette parole qui a été lue, méditée, répétée, sera une lampe devant nos pas, une lumière sur notre sentier. Oui, tant qu'il fait jour, apprenons aussi à prier. Combien d'hommes et de femmes ne prie que subitement dans la panique, dans la douleur, implorant un miracle vite fait, sans même quelquefois savoir nommer Dieu, et d'ailleurs c'est bien qu'il le fasse. Mais tant qu'il fait jour, apprenons à prier. Et puis, apprenons à aimer tant qu'il fait jour. Et quand la nuit tombera, nous aurons une autre réponse à apporter à nos persécuteurs, à nos agresseurs, que celle de la violence en retour, de la vengeance froide ou à chaud, peu importe. Nous aurons appris à aimer nos ennemis et à envisager autre chose que la réplique immédiate et puissante. C'est maintenant qu'il faut faire provision des choses essentielles. Jésus nous appelle à veiller, car l'heure vient. Là aussi, je me suis interrogé. Qui a passé la nuit en prière ? Levez la main, je vous prie. Oui, mais veiller, ça ne veut peut-être pas dire ne jamais dormir. Les chrétiens ne sont pas des insomniaques agités, angoissés. Vous avez bien remarqué que tout le monde s'endort dans la parabole. Les sages dorment aussi profondément que les folles. Veiller, c'est donc vivre sa vie simplement en prenant soin de faire provision d'huile, je l'ai dit, en nous ouvrant chaque jour aux bontés de Dieu, autant qu'on puisse y être sensible, mais en restant ce que l'on est. Nous restons des personnes limitées, fatiguées, fatigables, inconstantes, incrédules, infidèles. Mais en recherche de la bénédiction de Dieu, malgré tout. Et voilà que l'époux arrive au milieu de la nuit. Et en arrivant, il trouve une humanité endormie. Les fous et les sages dorment à point fermé. Tous ensemble. Un cri déchire alors la nuit. Je me suis demandé qui avait crié si tout le monde dort. Je n'ai pas trouvé de réponse dans le texte. Peut-être l'insomniaque de service. Qui a eu un brin d'insomnie cette nuit ? Là, il y a peut-être plus de gens qui vont lever la main. Est-ce la voix de l'époux lui-même ? Je ne sais pas. Ce n'est pas dit. Mais j'en déduis que nous pouvons dormir quand même sur nos deux oreilles, parce que quelqu'un veille, quelqu'un va crier que le Seigneur arrive. Cela me rassure beaucoup. Et là, on va assister à une scène magnifique. Tout le monde se réveille. C'est le même mot qui est employé dans l'Évangile pour dire se réveiller et ressusciter. Le même. Au milieu de la nuit, tout le monde ressuscite, pas seulement les sages, les folles aussi. Bon, les cinq folles paniquent complètement. Au lieu de s'approcher de l'époux, à sec, les mains vides, telles qu'elles sont, avec leurs lampes éteintes, elles suivent le mauvais conseil des filles sages et elles s'éloignent dans la nuit vers une quête improbable, désespérée. Et l'époux est passé. Il les aurait accueillis, avec ou sans huile. Pourquoi sont-elles parties au lieu d'aller vers lui ? La question qui est posée ici, c'est qu'est-ce qu'elles ont fabriqué de leur vie pendant qu'il faisait jour ? Elles n'ont de toute évidence pas appris à connaître le Seigneur, l'amour du Seigneur. Elles auraient découvert que Dieu est bon envers tous, qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui, les mains vides. Mais elles n'ont jamais pris le temps de le connaître tel qu'il est. Elles ont peut-être suivi des gens qui savaient mieux. Les voilà qui courent maintenant vers des marchands de bonheur à la sauvette. Alors qu'elles avaient tout pour elles, elles n'ont plus rien. Frères et sœurs, je me reconnais dans ces filles folles et sages. Ne sommes-nous pas à la fois ces gens habitués au souffle de Dieu en nous et ces incrédules bien trop occupés pour prendre au sérieux cette parole que nous venons de lire, pour prendre ne serait-ce que le temps de la lecture, de la lectio divina, de la prière. de la confiance. Cette question, la question que nous pose cette parabole est celle-ci, et elle est difficile. Quel est le jugement de Dieu ? Et si j'ai bien entendu l'Évangile qui dit ailleurs que Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, qu'il soit ouvrier de la première heure ou de la dernière, qu'ils aient de l'huile ou qu'ils en manquent. Mais la parabole est claire, il va rester dehors un certain nombre de choses. Sera laissé dehors tout ce qui, en nous, n'est pas du domaine de la bénédiction. Vous voyez de quoi je veux parler. Dehors nos mensonges, dehors nos violences, dehors nos égocentrismes, nos égoïsmes, nos lâchetés, nos paresses, nos violences, nos colères. Dieu fera alliance avec nous, avec chacun de nous. Mais avant cela, il nous débarrassera de tout ce qui ne bénit pas dans notre vie. Vous voyez qu'il y a de la place, beaucoup de place, dans le royaume de Dieu. Mais que cela ne nous empêche pas dès maintenant de faire des provisions et de veiller. Tant qu'il fait jour. Amen.